Entreprendre est dans l'air du temps, prendre soin des autres, de la planète et de son territoire l'est tout autant. Je suis Géraldine Tressard et dans mon parcours de productrice de vidéos corporate, j'ai été amenée à couvrir des interviews pour le concours régional de l'entrepreneuriat par les femmes en Centre-Val de Loire. C'est à cette occasion qu'une femme un jour m'a raconté la célèbre légende du colibri. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Mais colibri, t'es pas fou, c'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Nous vous proposons dans ce podcast de partir à la rencontre d'entrepreneurs qui ont décidé de suivre le colibri et de faire leur part. Nous découvrirons leurs histoires d'entrepreneurs et nous donnerons des pistes d'engagement et des idées pour tous ceux qui ont envie d'entreprendre autrement. Je serai accompagnée de Sébastien Nérault, directeur de France Active Centre-Val de Loire et spécialiste de la finance solidaire. Il nous éclairera sur les pistes d'engagement que peuvent prendre nos invités pour pousser encore un petit peu plus leur engagement. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Nelly Pitt. Nelly, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour Géraldine, je m'appelle Nelly, je suis la cofondatrice de Biotimix. Biotimix, c'est une petite entreprise qui propose une solution de cosmétique maison. C'est-à-dire, on propose aux gens de fabriquer eux-mêmes leurs produits de la salle de bain, très facilement et avec des produits sains.
Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours ? Comment vous en êtes arrivée là ?
Donc moi, je suis ingénieure en environnement. J'ai eu une longue carrière classique, entre guillemets, dans l'industrie. Je construisais des usines de traitement d'eau. Et donc, le déclic entrepreneurial est arrivé assez tard pour moi. Et ce n'était pas du tout une vocation au départ. Mais voilà, je suis aussi là pour prouver que l'entrepreneuriat, ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie. Et on peut se tourner vers cette nouvelle carrière. Il suffit d'en avoir l'envie.
Et justement, on parle de déclic. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui vous a fait vous dire « ça y est, c'est le moment, je vais me lancer ».
Effectivement, il s'est passé quelque chose. En fait, le point de départ pour moi, c'était l'impression de ne plus être alignée entre mes convictions et mon travail professionnel au jour le jour. Ce décalage est devenu de plus en plus difficile à vivre au quotidien. Et donc, je suis partie un peu, au départ, en quête de faire autre chose. Mais faire autre chose, c'était très vague au départ. Et j'ai vraiment regardé un petit peu dans toutes les directions. L'idée d'entreprendre et de créer mon entreprise est un peu arrivée par hasard, inspirée par des amis qui avaient lancé leur entreprise. Donc j'ai vu à travers eux que c'était possible de créer, de se lancer. Et ça m'a donné envie, à moi aussi, de tenter l'expérience.
Alors, entreprendre, c'est une chose, mais entreprendre dans un domaine qui demande de créer une innovation au niveau de l'outil, de la machine, pourquoi, comment on en arrive là et comment on se dit « je peux le faire ».
Je pense qu'on s'appuie tous sur ces points forts. Et moi, en l'occurrence, étant ingénieure, ce que je savais faire, c'était concevoir. Donc, j'ai parlé du fait que je concevais des usines, donc concevoir des solutions techniques, construire des nouvelles choses, innover, c'était ce que je faisais déjà. Donc je me suis appuyée sur cette force et voilà, j'ai construit autour avec l'aide de personnes avec des compétences complémentaires pour aller plus loin et partir de l'idée pour en faire une entreprise.
Et pourquoi les cosmétiques ?
Les cosmétiques, c'était pas du tout mon environnement professionnel, c'était vraiment un univers très très éloigné de ce que je connaissais, mais par contre c'était une passion personnelle. La cosmétique maison, c'est quelque chose que je faisais chez moi pour prendre soin de ma famille, et donc c'est cette passion, ce hobby qui est devenu ensuite un projet professionnel.
« Donc, vous nous parliez du fait que ça faisait partie de votre vie au quotidien, l'idée du faire soi-même. Mais on peut aussi se demander si c'est pas un peu une mode, puisque en ce moment, la vague du do it yourself est pas mal en vue. Est-ce que vous êtes dit, moi, je veux coller à mes envies et à mes principes, ou le fait que ce soit un peu à la mode, ça a été un argument supplémentaire?
Ah non, c'est sûr que mon projet, il est vraiment ancré avec mes croyances profondes. Et moi, justement, avec cette expertise d'ingénieur chimiste, j'ai toujours eu une compréhension très fine de ce qui peut rentrer dans la composition de n'importe quel produit qu'on achète dans le commerce. Et j'ai toujours eu cette envie de... que tout le monde puisse comprendre justement ce qui va dans les produits du quotidien. Je trouve que toutes les dérives qu'on peut observer dans la société de consommation, ça vient du fait qu'on a finalement perdu le contact, perdu le contrôle de ce qu'on consomme au quotidien. En fait, il y a une déconnexion totale entre ce qu'on utilise et la façon dont c'est fabriqué. Ça s'est fait sur quelques dizaines d'années, finalement. Moi, je sais que mes grands-parents, ils faisaient tout eux-mêmes. Ils étaient fermiers et ils cultivaient leur nourriture, ils tuaient leurs lapins, leurs poulets. Ma grand-mère cousait les habits. Enfin, tout était fait maison, en fait. Et du coup, on comprenait tout, on contrôlait tout. Et tout se faisait dans un écosystème local, en coopération avec les voisins. Et en quelques dizaines d'années, on a perdu cette cohérence sociale, on a perdu cette compréhension de nos produits du quotidien. Et je trouve ça dommage. Et je vois autour de moi que côté alimentation, on est en train de revenir en arrière, on est en train de revenir vers le fait maison, cuisiner, prendre plaisir à préparer son repas, à le partager avec sa famille. Donc, finalement, on ressent ce besoin de reprendre le contrôle, de remettre les mains dans le cambouis. Et donc, on revient au tricot, on revient à la couture. Voilà, les gens, finalement, souffrent au fond de cette déconnexion. Et donc, moi, je suis persuadée que le fait maison, c'est l'avenir, en fait. C'est le passé, mais c'est aussi l'avenir. C'est nos racines, c'est quelque chose qu'on a perdu. Et je suis persuadée que ce qui nous empêche de nous tourner vers le fait maison, souvent, c'est le manque de temps ou le manque de connaissances. Et donc, moi, mon projet entrepreneurial, c'est justement d'aider les gens à revenir au fait maison pour plein de raisons. Et tout ce dont ils ont besoin, c'est qu'on les aide pour que ça prenne pas trop de temps et que ça soit très facile, qu'on se pose pas de questions.
Alors, il y a des choses qui sont quand même plus faciles que d'autres. Moi, par exemple, je me suis récemment mise à la couture. Je trouve des tutos assez facilement. Si on veut faire du tricot, c'est un peu la même chose. Le do-it-yourself en cosmétique, c'est compliqué. Si on veut faire du savon, il faut normalement des outils qui sont adaptés et qui sont compliqués. Faut pas se planter dans les formulations. Moi, en tant qu'utilisatrice de Biotimix, ce que je trouve hyper agréable, c'est que c'est très simple d'utilisation. On sort la machine, on a les ingrédients, on appuie sur un bouton et hop, ça y est, c'est bon, c'est fait. Est-ce que faire de l'accessible et proposer le do-it-yourself dans les cosmétiques, c'était une vraie volonté? Et surtout, comment vous arrivez à savoir que vos cosmétiques sont efficaces et ne vont pas nuire à l'utilisatrice? Ça a été testé, il y a des labels?
C'est plusieurs questions en une, là. Alors, les cosmétiques, c'est vrai que c'est une industrie qui a réussi à aussi bâtir un mythe un peu et une sphère un peu de technicité intouchable et de encore plus déconnecter les produits du quotidien de ce savoir-faire fait maison. Donc effectivement, quand on parle à quelqu'un de fabriquer soi-même sa crème hydratante ou son rouge à lèvres, ça paraît impossible dans la plupart des cas. Et nous, avec Biotimix, on veut rendre ça complètement naturel. Et en fait, de quoi on a besoin pour se lancer? On a besoin d'une recette, on a besoin d'ingrédients et on a besoin de matériel de fabrication. Donc avec Biotimix, on fournit ces trois choses. On a développé des recettes qui soient très simples à réaliser, mais en même temps très efficaces. Donc effectivement, on a travaillé avec des experts, cosmétologues, toxicologues, laboratoires, pour valider que les ingrédients qu'on avait choisis étaient non allergisants et donc pouvaient convenir à toutes les peaux, même les peaux les plus sensibles. Ça, c'était l'étape la plus importante. On a validé que nos recettes étaient stables dans le temps, conservées à température ambiante, pour qu'il n'y ait aucun risque pour l'utilisateur. Donc, du coup, on fournit aux gens des recettes qui sont complètement sécurisées. On leur dit, avec nos recettes, que vous pouvez retrouver sur notre application mobile, en deux clics, c'est très facile à trouver, vous pourrez créer des produits qui sont sains et sans risque. Donc déjà, on lève la peur de se lancer. Et ensuite, on fournit tous les ingrédients, parce qu'il faut aussi pouvoir trouver ces ingrédients. Et donc, on leur permet aussi de les trouver très facilement, des ingrédients de qualité cosmétique, donc c'est-à-dire très haute qualité, qui permettent d'avoir un résultat hyper efficace et de voir tout de suite l'impact sur la peau. Donc, on propose du coup de l'huile d'amande douce, de l'hydrolat de rose, par exemple, pour fabriquer des produits cosmétiques.
Et alors, autre point qui peut être amené par une utilisatrice, il y a toujours des nouvelles recettes, vous agrémentez toujours de nouvelles idées, il y en a même pour les enfants, la pâte à modeler, la peinture sur vitre, des nouvelles crèmes, des nouvelles... on peut même faire maintenant de la lessive. C'est une volonté pour vous de faire évoluer le produit et de pas nous dire, bon bah voilà, on vous a vendu le Biotimix et puis vous avez trois recettes et débrouillez-vous avec ça.
Avec Biotimix, on s'est lancé il y a 3 ans maintenant, et donc on commence à avoir une très jolie communauté d'utilisateurs, et c'est un peu ce qui fait notre force et qui me booste au quotidien, c'est cette communauté d'utilisateurs qui du coup reviennent vers nous avec des envies, des besoins, et donc on a envie de leur faire plaisir et de les accompagner toujours plus loin dans leur démarche de fait maison. Et donc oui, on développe toujours de nouvelles recettes, de nouvelles propositions de valeur, pour répondre aux besoins de nos utilisateurs.
Et bon, on va croire que j'ai été payée par Biotimix, ce n'est pas le cas, mais je peux aussi témoigner qu'en tant qu'utilisatrice, j'avais un petit souci parce que j'ai la peau très sensible et qu'il y avait une formule qui ne me convenait pas totalement. J'ai envoyé un petit mail à l'équipe et ils m'ont répondu tout de suite en me disant ce que je pouvais changer dans la formule pour que ce soit plus adapté.
Et on vient de lancer la recette déodorant peau sensible. On écoute nos utilisateurs.
Alors, on peut être engagé dans les formules, on peut avoir envie de faire des choses bio et naturelles. Mais une question me taraude, qu'est-ce qui se passe derrière les portes de Biotimix? L'engagement, il est aussi dans votre travail auprès de vos équipes?
Alors, l'avantage d'entreprendre, c'est qu'on peut créer de toutes pièces l'entreprise où on aimerait travailler. C'est quand même un luxe incroyable. Et donc, quand j'ai créé mon entreprise, forcément, j'ai voulu créer l'entreprise qui était idéale pour moi. Donc, ça veut dire, pour moi, ça voulait dire créer de l'emploi en région, pas à Paris. Ça voulait dire travailler avec des partenaires qui soient alignés avec mes valeurs. Ça voulait dire faire des choix difficiles d'un point de vue économique, mais importants d'un point de vue écologique. C'est tout un ensemble de choix qui font que je suis fière de l'entreprise que j'ai créée. Et c'était la raison pour laquelle je me suis lancée au départ aussi.
Et ces choix, c'est quoi par exemple?
Pour mentionner les choix les plus difficiles qu'on a eu à faire, alors forcément, quand on crée une entreprise, il y a aussi une réalité économique. Donc il faut savoir que voilà, c'est toujours des compromis à faire. Sébastien, tu pourras peut-être en parler, mais il faut toujours réussir à trouver le compromis entre rentabilité, donc c'est-à-dire survie de l'entreprise, et engagement. Donc pour donner un exemple, nous, on a fait le choix de pas de plastique, pas d'emballage plastique. On voulait que de l'emballage réutilisable, donc ça veut dire des flacons en verre pour nos produits. Mais les flacons en verre, c'est lourd, ça casse, ça coûte cher, donc ça génère plein de contraintes, mais c'est un choix qu'on a fait au départ. Et on essaie de s'y tenir, malgré tous les inconvénients. Et choisir de s'implanter en région pour créer de l'emploi en région plutôt qu'à Paris, mais ça veut dire avoir plus de difficultés peut-être à recruter, à trouver les talents dont on a besoin. Mais c'est important aussi pour moi. On peut parler du choix du financement. Moi, je voulais créer une entreprise qui soit pérenne, qui soit rentable, alors que j'évolue dans le monde des startups où la logique et qui semble implacable, c'est tu lèves des fonds, peu importe la rentabilité de l'entreprise, tu finances ta croissance avec des fonds d'investissement et puis tu perds de l'argent tous les ans. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Mais ça va complètement à l'encontre de la culture start-up, entre guillemets. Donc et du coup, ça fait qu'on croit plus lentement, que c'est plus compliqué. Mais encore une fois, c'est un compromis pour m'aligner avec ma vision de l'entreprise.
Et nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Sébastien Nérot. Sébastien qui est spécialisé dans la finance solidaire et qui travaille chez France Active Centre-Val de Loire. Alors, France Active accompagne les entrepreneurs dans leur engagement. L'engagement, ça passe par plusieurs choses. Ça peut passer par la gouvernance, le territoire, l'utilité sociale, l'emploi ou l'environnement. Ce sont 5 piliers qui permettent de mesurer l'engagement d'une entreprise. Et justement, Sébastien, bonjour.
Bonjour.
Comment un organisme comme France Active Centre-Val de Loire accompagne des entrepreneurs comme Nelly ?
On a entendu là tout son engagement et voilà tout ce qu'elle souhaite mettre en avant dans sa structure. On a plusieurs façons. Nous, on a des outils financiers pour effectivement accompagner cet engagement et accompagner le développement, en fait, l'accélération de l'entreprise en gardant ses valeurs. Nelly vient de le dire, ça peut être plus lent parce que j'ai des choses qui vont freiner peut-être mon développement en termes de nombre d'emplois ou de croissance, etc. Et donc comment on accompagne ça ? Nous, on a des outils qu'on appelle de fonds propres, de haut de bilan justement, pour essayer de renforcer sa capacité à innover et en même temps avec des capitaux plus patients, c'est-à-dire qu'avec 2, 3, 4 ans de différé qui permettent d'avoir le temps de mettre en place les actions avant d'avoir les retours. Puisqu'effectivement, les investisseurs classiques vont quand même demander à ce que ça soit, avoir assez vite de retours sur investissement et assez gros. Et on peut avoir ce genre d'outils financiers spécifiques, mais aussi challenger un peu les entrepreneurs. Voilà, les aider à aller un peu plus loin en disant, vous indiquez tel engagement, mais est-ce que vous avez pensé aussi à tel autre, par exemple. Donc là, on peut en parler là. Oui. Et par exemple, moi, j'aurais une question à poser sur... vous dites qu'effectivement, le fait d'avoir été en région, c'est peut-être un peu plus difficile sur le recrutement. Par contre, est-ce que de l'autre côté, toutes les valeurs que vous portez dans l'entreprise et tout cet engagement, ça vous aide aussi à trouver les perles rares que vous cherchez dans vos recrutements ?
C'est une très bonne question. Moi, je le constate autour de moi, tout le monde est en quête de valeurs, surtout après... la crise sanitaire qu'on vient de traverser, où on s'est beaucoup retourné sur nous-mêmes et on a remis en question... on est un peu sorti du rush habituel, de la routine habituelle, et puis on a tous pris un peu de recul et on a beaucoup réfléchi. Et vous avez peut-être entendu parler de la Great Resignation, le fait que tout le monde quitte son emploi en ce moment. Je pense que tout le monde est en quête de sens. On a envie de travailler pour quelque chose. Et donc, moi, chez Biotemix, j'ai la chance d'avoir une équipe vraiment au top, malgré les petits moyens financiers qu'on a. On ne propose pas des salaires mirobolants, mais par contre, on propose de la flexibilité au travail, une ambiance, des valeurs et une mission qui ont du sens.
Et Sébastien, si on se disait, tiens, c'est le moment, on va accompagner Nelly encore un peu plus loin dans son engagement, qu'est-ce que vous pourriez lui proposer pour passer encore une étape ?
Là, je rebondirais tout de suite parce qu'elle vient d'en parler sur effectivement un peu le pilier gouvernance, qu'on appelle donc la façon de gérer l'entreprise, c'est-à-dire ses salariés, on le voit, ils vont rejoindre l'entreprise par rapport aux valeurs que vous véhiculez, par rapport à l'ambiance, à l'esprit d'équipe qu'il y a là. Donc effectivement, en plus de leurs compétences techniques, ils vont peut-être rester et être fidèles parce qu'ils participent à un projet qui a du sens. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, la question posée, c'est comment on répartit un peu les bénéfices, comment on répartit... Alors, parce que vous avez la chance de dire que dès le départ, vous avez une structure rentable. Donc à la fin, quand il reste des bénéfices dans une entreprise, ils ont quand même été produits en partie par les salariés. Et donc, comment on redistribue cette partie-là ? Donc, ça serait une question là-dessus. Il y a plusieurs outils là, de façon de redistribuer le bénéfice aux salariés et comment vous les associez aussi dans les décisions. Donc, c'est l'autre part de la gouvernance, les décisions et ensuite le bénéfice. Comment vous les associez ? Est-ce qu'aujourd'hui, ils participent ? Vous êtes encore une petite équipe, donc vous pouvez peut-être avoir un management assez horizontal, mais à un moment, quand vous allez grossir, voilà, comment ils participent dans les décisions stratégiques ? Ça peut être, par exemple, deux questions que je peux vous renvoyer sur le pilier gouvernance.
Mais c'est très rigolo parce qu'en fait, c'est une discussion qu'on a eue l'année dernière à l'occasion du concours France Active. Je m'étais tournée vers Sébastien avec des questions sur la gouvernance, sur comment aller plus loin. Et tu m'avais déjà donné des conseils à l'époque et merci beaucoup. Donc du coup, on a pu les mettre en place dans l'entreprise. Donc on a mis en place un accord d'intéressement pour que les salariés, du coup... participe au bénéfice de l'entreprise puisqu'on travaille ensemble, donc c'est normal que si ça marche pas bien, on en subit tous les conséquences, et si ça marche bien, on en profite tous et on partage ça. Et en termes de prise de décision, on a aussi mis en place plein de process internes pour prendre les décisions ensemble, avec des points hebdomadaires et des plus grosses réunions mensuelles pour fixer la stratégie de l'entreprise, les objectifs de chacun et suivre l'avancement. Donc ouais, merci pour tes conseils et on avance sur le sujet petit à petit.
Bon, et là, on est tous autour de la table, donc forcément, on s'est rencontrés un jour ou l'autre. Nelly, dans quel cadre avez-vous pu ou dû faire appel à France Active et comment vous les avez rencontrés ?
C'est le concours. Donc moi, j'ai découvert France Active par l'intermédiaire du concours régional de l'entrepreneuriat par les femmes. Et j'ai découvert du coup une structure qui est géniale, enfin, en termes de valeurs justement que vous portez et de méthodes. J'ai vraiment été très séduite par... en fait, vous donnez des outils, vous donnez des objectifs et vous donnez des outils aux entreprises pour... mieux entreprendre, avec des conseils très concrets, un réseau très cohérent, du coup des échanges d'informations, des actions de communication, donc plein de choses qui font que vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous faites. Donc ouais, c'est vraiment top pour aider les entrepreneurs à faire leur part.
Et quand on a un entrepreneur qui veut faire sa part, vous trouvez qu'il est facile de trouver des aides de personnes qui voient les choses de la même façon que nous ou il faut se battre encore plus ?
Je trouve que c'est difficile. En fait, on est très vite repris dans les travers, entre guillemets, de l'économie classique, entre guillemets. Je mets des guillemets partout, mais c'est vraiment difficile, effectivement, parce qu'on est dans une logique capitaliste. Et donc, c'est toujours de la rentabilité... de la chasse au coût, et c'est difficile franchement hein, d'essayer d'aller à contre-courant. En fait, je pense pas que ce soit contre-courant, je pense que c'est vraiment c'est l'avenir, en fait c'est la direction dans laquelle tout le monde souhaite aller, et le fait d'avoir des initiatives comme celle de France Active qui font ressortir ces valeurs communes, cette ambition commune, ça nous permet de réaliser qu'en fait, le voisin aussi, il veut faire comme nous. Mais c'est juste que, comme personne ne le fait, c'est vraiment comme la légende du colibri, finalement. Quand on se rend compte qu'en fait, on peut tous faire notre part, et bien ensemble, on peut faire évoluer les choses dans le bon sens. Et on le voit, je trouve, à l'heure actuelle, on voit que les grands groupes, maintenant, sont influencés par les plus petites structures qui se sont lancées les premières. Donc, je pense vraiment que... en communiquant plus sur ce qu'on a envie de faire, on peut réussir à lancer le mouvement, à faire mouvement et à faire bouger les choses.
Et aussi, quand on se sent moins seul, évidemment, effectivement, on se sent plus fort. Et alors moi, j'ai une question, mais c'est une question un peu pour tous les deux. Est-ce que créer son entreprise en étant engagé, ça engendre forcément de faire des sacrifices de profit, des sacrifices de rentabilité? Et si oui, est-ce que c'est des sacrifices qu'on doit être prêt à faire pour toujours? Ou est-ce que forcément, à un moment ou à un autre, ces sacrifices se transforment en bénéfices?
Ma vision des choses, c'est que c'est souvent des compromis, donc des sacrifices à court terme, mais pour des bénéfices à long terme. Donc c'est un peu difficile au départ, mais sur le long terme, ça crée de la valeur. Et donc, si ça crée de la valeur, c'est bon pour l'entreprise. Et c'est souvent des contraintes perçues. Et le fait de discuter avec d'autres entrepreneurs, de voir ce que d'autres ont fait, ça donne des idées et ça débloque des situations. Parfois, il suffit d'un petit conseil pour donner la bonne idée, pour communiquer la bonne idée et puis finalement débloquer quelque chose qui semblait insurmontable.
Non, je pense aussi, vous en parliez tout à l'heure, sur la communauté d'utilisateurs que vous avez, de clients, voilà, et je pense que la cohérence globale de l'ensemble, c'est ça aussi qui rend visible les différents engagements qu'on peut avoir. Et qu'à un moment, quand même, l'utilisateur final, le client final, c'est peut-être quand même une différence qu'il peut y avoir entre je fais de façon, alors je ne sais pas si le mot approprié, mais cosmétique dans des grands groupes, un peu des choses qui font penser que voilà, j'ai un engagement, et puis un engagement global voilà, sur différents plans, etc., dans l'entreprise. Et cette harmonie un peu globale de différentes pistes d'engagement, à un moment, ça transpire de l'entreprise que vous, enfin, la vôtre et de celle qui porte ces valeurs-là vraiment au cœur, quoi. Et à un moment, oui, il y a des choix à faire. Mais ces choix, ils peuvent être difficiles, mais ils sont aussi vus et compris par le client, quoi. On le voit par exemple dans différents points où on est prêt à payer plus cher certains produits. Alors il y a dans certaines limites, on en discutait, mais ou sur l'alimentaire bio, on est aussi prêt quand le producteur dit mais moi je peux pas vendre moins cher parce que sinon je meurs. Bah on dit ok, je vais acheter ma viande un peu plus cher, j'en achèterai moins, quoi. Donc on est quand même prêt à faire des compromis et il faut emmener le client aussi dans le faire mouvement qu'on disait, c'est emmener l'utilisateur final ou le client dans ma problématique pour lui faire comprendre que, et même si c'est pas évident, quoi.
Je vais rebondir là-dessus parce que je trouve que l'exemple du bio est un très bon exemple sur le fait que, je disais tout à l'heure, c'est plus difficile à court terme, mais à long terme, c'est bien. Donc sur le bio, on a bien vu que pendant très longtemps, le bio, c'était plus cher que l'alimentation classique, non bio. Du coup, peu de personnes achetaient bio. Et ça a mis quand même de nombreuses années à se démocratiser. Mais le fait d'avoir lancé ce nouveau marché, que les personnes qui étaient prêtes à faire l'effort financier l'ont fait les premiers, et petit à petit, le bio a pris, des parts de marché. Et puis, voilà, quelques années plus tard, on arrive à avoir du bio à prix accessible. Et maintenant que le bio est à prix accessible, ça s'est complètement démocratisé et maintenant c'est accessible à tous. Donc ça a pris des années, c'était difficile au début, mais le résultat final, c'est que maintenant on a des produits bio à prix accessible pour tout le monde.
Mais j'ai l'impression aussi que sur les gros industriels, quand la demande est plus responsable, ils sont aussi obligés de suivre à un moment ou à un autre.
Finalement, en fait, ce qui fait la décision finale, c'est le consommateur. Ce que le consommateur demande, l'industriel crée. Tout part du consommateur.
Alors, il y a une vidéo qui a beaucoup circulé ces derniers temps, dans laquelle on pose des questions à des hommes entrepreneurs de renom, basées sur des questions qu'on pose habituellement aux femmes entrepreneurs. Est-ce que vous l'avez vue et quel est votre ressenti sur cette vidéo ?
Alors, effectivement, j'ai vu cette vidéo et forcément, elle m'a fait réagir. Elle a soulevé plein de questions. Je trouve que c'est une vidéo très intelligente et qui vraiment, en tout cas, chez moi, a soulevé le questionnement. Je me suis demandé, mais est-ce qu'on m'a déjà posé ces questions ? Est-ce que j'ai trouvé ça normal ou pas ? Comment j'ai répondu ? Enfin, je me suis vraiment remise en question parce que je pense qu'il y a... En fait, je me suis demandé si le tort n'était pas partagé en fait, entre ce que nous, en tant que femmes, comment se positionner dans la société en tant que femme entrepreneur, en tant que maman et entrepreneur. Ouais, ça m'a... c'est une vidéo très intelligente qui fait vraiment réfléchir.
Sébastien ?
Oui, bah, cette vidéo m'a beaucoup fait réfléchir, à la fois parce qu'effectivement, j'anime cette cérémonie du concours depuis un certain nombre d'années, donc je pose des questions aux femmes, donc voilà, quelles femmes entrepreneurs, quelles questions je pose et pourquoi, effectivement, je me suis dit, tiens, ça met la pression pour le prochain. Et en même temps, est-ce que vraiment on doit poser les mêmes questions aux hommes et aux femmes ? Ça, justement, me pose la question. Tant que les problématiques restent des problématiques, c'est-à-dire que tant que... voilà, l'équilibre vie perso, vie pro, ben, est pas la même pour un entrepreneureux qu'un entrepreneur. Enfin, c'est une réalité. Donc, est-ce qu'on doit nier cette réalité pour pas dire qu'elle existe et on pose pas la question aux femmes qui ont cette réalité à gérer, ou est-ce que voilà, on les met en avant pour quand même poser la question. Donc, je trouve que la vidéo pose ces questions-là, mais les réponses sont pas si simples que pourrait laisser penser le fait que ben non, on va poser la même question à tout le monde. Et je ne poserai pas les mêmes questions à des gens qui sont engagés, à des gens qui ne le sont pas. Et pour autant, voilà. Donc c'est vrai que c'est une vidéo qui pose beaucoup de questions. Et bon. Qui lève plutôt les questions, que les réponses ne sont pas si simples que la vidéo pourrait laisser paraître. Mais elle a été très virale et assez intéressante.
En étant moi-même entrepreneur et femme, et personne qui pose des questions aux femmes, je me suis pas mal posé de questions sur est-ce qu'il fallait que j'arrête d'orienter mes questions, est-ce qu'il faut que je continue, parce que d'un autre côté, je me dis aussi qu'arrêter de les poser, ces questions, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de soucis et qu'il n'y a plus de questions d'égalité, puisque tout est OK et je ne suis pas sûre qu'on en soit là.
Mon point de vue, c'est plutôt de pas arrêter de poser ces questions. Je donne mon point de vue personnel uniquement, pas arrêter de poser ces questions, mais effectivement poser les mêmes aux hommes. Et c'est ce qui a été fait dans la vidéo, et ça surprend au début, mais ça va se faire.
Et qui sait, peut-être que ça amènera les hommes à ne pas être surpris quand on leur pose des questions sur comment ils gèrent leur vie de famille avec leur vie d'entrepreneur. Et ça, ce serait pas mal qu'il y ait moins de surprises à ce niveau-là. Donc, on va passer maintenant aux trois dernières questions. Alors, Nelly, est-ce que vous avez un mentor en tant qu'entrepreneur ?
Alors, il se trouve que dans le cadre de l'émission « Qui veut être mon associé ?», j'ai rencontré un homme entrepreneur extraordinaire qui est devenu mon associé, Jean-Pierre Nadir. Et lui, c'est un vrai mentor pour moi. C'est quelqu'un qui m'accompagne, qui répond à mes questions, qui a un parcours entrepreneurial extraordinaire et des valeurs humaines hyper fortes et voilà, qui m'aide énormément au quotidien.
Donc on peut dire que cette émission vous a apporté quelque chose de positif.
Ça m'a apporté quelque chose d'essentiel, ouais.
Et avec cette association, est-ce que vous pensez que Biotimix va vraiment prendre un virage différent, aller dans une nouvelle direction ?
Alors, Biotimix ne va pas prendre un virage complètement différent parce que justement, j'ai choisi un associé qui était aligné avec la direction dans laquelle je voulais aller. Donc, on va toujours dans la même direction, mais un peu plus vite.
Et si vous rencontriez un entrepreneur engagé dans sa vie de tous les jours et qui avait envie de transformer cet engagement dans sa vie professionnelle, mais qui ne sait pas comment le faire, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller ?
Eh bien, je lui dirais de se rapprocher de tous les groupes d'entrepreneurs engagés. Il y en a plusieurs. Et je lui dirais, restons en contact, parce que moi aussi, je me pose plein de questions. Et c'est ensemble qu'on va trouver les solutions. On a toujours l'impression, en fait, quand on a envie de bien faire, qu'on fait trop peu. Et de voir ce que les autres réussissent à faire, c'est hyper inspirant et ça donne envie d'aller plus loin. De voir que d'autres l'ont fait, ça rend la chose atteignable, concrète. Et ça rassure sur le fait que, oui, nous aussi, on peut y arriver. Donc... faisons réseau, communiquons, travaillons ensemble et partageons nos petites astuces qui font la différence.
Et ouvrons-nous et ne restons pas seuls et on n'est pas les seuls à avoir envie d'aller plus loin et de s'engager. Ce sera le message donc à retenir. Qui souhaiteriez-vous entendre dans les prochains podcasts ?
Alors j'aimerais beaucoup entendre la personne dont tu m'as parlé, Sébastien, qui s'appelle le...
Benoît
Ponroué. J'ai été bluffée parce qu'il a réussi à construire. C'est incroyable. J'ai vraiment envie de savoir comment il a fait pour en tirer voilà, toutes les leçons que je pourrais appliquer à mon projet.
Et Sébastien, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est ce monsieur, du coup ?
Bah, j'espère qu'on l'entendra dans un prochain podcast. On a allez, un entrepreneur engagé de notre territoire, voilà, de Touraine, qui a créé il y a quelques années une entreprise, effectivement, qui a en 2-3 ans déjà plus de 70 salariés. Donc c'est un très beau projet et très engagé, voilà, sous format coopératif, en scope. Les salariés sont associés dans l'entreprise et en plus sous forme d'entreprise adaptée. Donc les personnes sont tous avec un handicap. Donc voilà, il réunit de belles valeurs et un entrepreneur vraiment très, très inspirant.
Nelly et Sébastien, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci.
Nous retiendrons de ce podcast que finalement, même les gens qui semblent les plus engagés se posent aussi des questions et que travailler ensemble nous permet d'y voir plus clair. Un grand merci à Yann d'Adar Studio pour le mix et la musique. Je vous dis à très bientôt et vous remercie pour votre écoute.